Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Bruno Picard.
Bonne écoute.
Nous sommes pleinement conscients que sans ta présence, Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas adorer Jésus. Sans ta présence, nous sommes totalement secs. Sans ta présence, nous ne pouvons rien accomplir, rien faire. Ce matin, Seigneur, en cette journée où nous voulons fêter les papas, nous voulons d'abord, avant tout, Seigneur, te dire merci pour ce que tu es. Merci pour le Père que tu es pour nous tous ce matin. Merci pour l'amour du Père que tu dégages. Merci pour l'amour du Père que tu nous donnes. Merci pour le pardon du Père, pour la compassion du Père, pour l'autorité du Père. Merci parce que tu es le Père extraordinairement parfait. Ce matin, Seigneur, nous donnons toute la gloire, la louange et l'honneur que ce peuple ce matin puisse être touché, pas par un homme, mais par ta présence. Que tous puissions être restaurés, fortifiés, encouragés, et particulièrement ce matin, Seigneur, le Père. Nous te rendons grâce et tout le monde dit bien fort. Amen. Bonjour à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas de cette maison de la foi à Hosanna ce matin. Nous sommes heureux de vous avoir. Nous sommes heureux de savoir que vous répondez présent à l'église. Et j'ai le privilège ce matin de vous apporter la parole de Dieu et qui, j'espère, va vous encourager, vous toucher, vous motiver, vous faire réfléchir. Parce qu'on a besoin plus que jamais d'avoir des pères dans la maison, des pères présents, des pères qui sont de vrais pères. Amen. Donc, j'aimerais commencer par un verset dans 3 Jean, verset 4. Et je me tiens devant vous ce matin tout tremblant, dans la crainte de Dieu, sachant que je ne suis pas encore un père extraordinaire, un père comme j'aimerais l'être. Mais je suis confiant de ce que le travail que Dieu a commencé en moi, il le finira. Et je suis conscient que tous ceux et celles qui sont ce matin dans ce lieu, qui sont, en tout cas ceux qui sont pères, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne craignez pas. Parce que le passé ne peut pas dicter votre présent. Votre passé ne peut pas dicter votre présent. C'est la présence de Dieu qui dicte votre présent. Et quand Dieu est présent, tout peut arriver. Amen. Donc dans 3 Jean... Verset 4 nous dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, avait acquis ce cœur de père et il disait que ma plus grande joie, c'est lorsque mes enfants marchent dans la vérité. Marc 10, 45, Marc chapitre 10, verset 45, nous dit, et on parle de Christ, c'est un passage qui me fait souvent réfléchir, qui me fait souvent prier sur mes deux genoux. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et aujourd'hui, j'aimerais considérer et vous inviter à reconsidérer votre vision du rôle du Père. Et j'aimerais surtout encourager d'abord les pères à avoir confiance en ce que Dieu a mis en nous. J'aimerais aussi encourager les mamans, les épouses et les enfants à ne plus jamais juger les pères, mais au contraire à prier abondamment pour eux et à vous assurer que par votre soutien, votre réconfort et votre confort, le père de votre maison peut devenir le père que Dieu veut qu'il devienne. Vous allez voir aujourd'hui la lumière de la parole de Dieu qu'il est impossible à un homme de devenir un père sans le soutien de sa famille. Quelqu'un, c'est un proverbe indien qui dit « Ne jugez pas un homme avant d'avoir marché deux lunes dans ses mocassins. » Le proverbe indien nous dit « Ne jugez pas un homme avant d'avoir marché deux lunes dans ses mocassins. » Et la tendance en France et à La Réunion et partout dans le monde, malheureusement, la tendance de la chair, c'est de juger les autres sans jamais avoir compris ce par quoi ils passent. Il est très difficile de comprendre l'autre à moins que tu aies vécu exactement la même chose. Quand j'avais 15 ans, je pensais que mon père était immature. Quand j'avais 15 ans, je pensais que mon père était bête. Et quand j'avais 20 ans, je pensais que mon père ne comprenait pas beaucoup les choses. Mais aujourd'hui, je pense que vraiment, mon père a beaucoup mûri. Non, c'est moi qui ai mûri. C'est moi qui ai compris que ce que je n'avais pas compris à l'âge de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les jeunes, nous avons tendance, nous, à juger nos parents en pensant qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont déconnectés, qu'ils sont détachés des choses, qu'ils n'ont pas, qu'ils ne comprennent rien. Hein? Les jeunes. Je dis jeunes parce qu'il y en a plusieurs. On a tendance à dire, ouais, papa, tu ne comprends pas la vie, comme si ton père n'a pas vécu avant toi. J'ai une grande nouvelle pour toi à t'annoncer. Si tu es là aujourd'hui, c'est que ton papa et ta maman sont là avant toi. C'est fort, hein? Écoutez bien ce passage. Je vais honorer mon père ce matin et honorer mon beau-père. Mais franchement, ces passages m'ont beaucoup réfléchi cette nuit et ce matin. Proverbe 17, verset 6. Proverbe 17, verset 6. Enfants et femmes, ce matin, mon message s'adresse aussi à vous. J'espère, sans vouloir copier le moment fort que nous avons eu pour les femmes, pour les mamans, il y a 3 semaines de cela, j'espère ce matin faire naître en nous le désir d'honorer les papas. Et de comprendre les papas et de ne plus les juger en pensant que nous comprenons mieux qu'eux. Il est difficile d'être un papa. Bon, c'est pas grave, je vais la refaire celle-là. Dans mon rêve, hier, je disais que tout le monde allait dire « Ouais, mais c'est pas... Ben, » c'est comme ça. Il est difficile d'être un papa. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants. Et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Et moi, je suis fier de mon père. Fier de mon beau-père. Le psaume 78, verset 5. Psaume 78, verset 5. Mon père, Christian, est connu jusqu'au Canada. On va en parler dans un instant, mais ça, c'était assez marrant. Psaume 78, verset 5 nous dit « Il a établi un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël. Il a ordonné, tout le monde dit ordonné, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Le père a reçu de la part de Dieu la mission d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. » Le Père a reçu cette mission extraordinaire d'enseigner aux générations suivantes, à leurs enfants, la loi de l'Éternel. Le cœur de Dieu, si vous préférez. Non pas juste la parole écrite, mais le cœur de Dieu. La Bible, c'est l'expression du cœur de Dieu. La Bible exprime ce que Dieu dit. La Bible exprime ce que Dieu pense. La Bible déclare ce que Dieu est. Lorsque tu enseignes la Bible, tu enseignes le cœur de Dieu à tes enfants. Et c'est l'ordre que Dieu donne au Père. Donc je répète, il est difficile d'être un papa. Parce que le papa se doit d'inculquer les règles, les principes fondamentaux dans la vie de leurs enfants qui viennent de la parole de Dieu. Le père se doit d'enseigner les principes de la parole de Dieu. Question à vous les femmes, combien d'entre vous aimeriez être le papa ? Parce que la mission d'un père, c'est de tenir devant Dieu un jour en disant « Père éternel, j'ai inculqué ton cœur à mes enfants et je tremble devant le trône de Dieu chaque jour. » Alors je ne parle pas aux papas qui ont déjà vécu les enfants qui étaient à la maison. C'est un peu tard, bien que tu puisses toujours réajuster les choses. Mais je parle à la tendance générale aujourd'hui, je parle à tous les papas dans la maison, je parle aux grands-pères, je parle à toutes les mamans qui sont des épouses, je parle aux enfants dans ce lieu ce matin. Nous avons le devoir, en tant que chrétiens, d'inculquer le cœur de Dieu à notre génération et société. Et cela doit se faire en s'appuyant sur la parole de Dieu. Le Père inculque, communique à son enfant le cœur de Dieu, et en faisant ainsi, il établit son enfant sur le roc, et en établissant son enfant sur le roc, il ouvre le cœur de son enfant au potentiel que Dieu a mis en lui. Soyez attentifs parce que Dieu va ce matin nous parler. Il n'est jamais facile, frères et sœurs, il n'est jamais facile d'ouvrir le cœur de ses enfants au potentiel que Dieu a mis en eux. Et pour ceux et celles qui auraient des regrets ce matin, ce n'est pas la peine d'avoir des regrets. Apprenez la leçon. Et si vous avez vécu sans ces principes de ce matin, vous n'êtes pas coupable puisque vous étiez ignorant. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aujourd'hui apprendre et aider d'autres jeunes papas à faire la différence et aider vos enfants qui sont peut-être mariés déjà aujourd'hui à faire la différence. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Si tu es un père, si tu es un homme, tu ne baisses jamais les bras. Il suffit d'être un mâle pour donner naissance, en tout cas, ou semer la graine. Mais il faut être un père pour éduquer un enfant. Ça demande du caractère, ça demande de la volonté, ça demande de la détermination. Donc ce matin, j'aimerais vous encourager, je pensais à Jésus-Christ, qui parmi les 12 disciples, a quand même choisi de laver les pieds de Judas. Et il s'est dit, ce n'est pas parce que un m'a trahi, ce n'est pas parce que quelque chose va mal dans la société, que je vais abandonner les autres. C'est parce que ton rôle de père n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que ton père, avant toi, n'avait pas réussi à t'éduquer, que toi-même, tu dois abandonner les autres. Tu te dois, si tu es chrétien, et je me dois, si je suis chrétien, d'être un père exemplaire et d'inculquer la parole de Dieu à mes enfants. Christ a choisi d'inculquer ses principes aux 11 apôtres, malgré le fait que Judas l'ait trahi, il a lavé les pieds de tout le monde. Le cœur d'un père, c'est de faire les choses, pas parce que les gens le méritent, parce que Dieu le demande. Un père doit comprendre ça, ce matin, frères et sœurs. On n'est pas là pour faire les choses parce que nos enfants le méritent, on est là pour faire les choses parce que Dieu nous l'ordonne. Dieu nous ordonne d'inculquer son cœur à nos enfants. Et l'enjeu est bien réel. L'enjeu est extrêmement important. Nos enfants, nos familles, notre société, la Réunion, la France a besoin de pères qui se lèvent et de pères qui prennent leur place. Et ma fidélité à cet appel déterminera la largeur de mon manteau et la profondeur et l'impact de mon héritage. Si les pères se lèvent dans une nation, l'héritage sera extraordinaire. Si les pères baissent les bras, surtout, s'il vous plaît, je ne suis ni misogyne, ni anti-féministe. Je respecte le désir de la femme d'avoir les mêmes droits que les hommes. Il n'y a aucun problème pour cela. Dieu lui-même dit que la femme et l'homme sont égaux, mais il y a des fonctions différentes pour les femmes et des fonctions différentes pour les hommes. C'est pour ça que la femme est totalement émotionnelle et l'homme est plus rationnel. Parce que chacun a reçu une faculté d'aborder les situations de différentes manières. Si Élodie et moi, nous devions aborder les problèmes de la même manière, on serait tous les deux morts, enterrés et nos enfants avec. Mais Élodie va devoir aborder les problèmes de façon émotionnelle comme une femme sait le faire et moi de façon rationnelle comme un homme devrait le faire. Ça ne signifie pas qu'Élodie n'est pas rationnelle du tout. Ça ne signifie pas que je ne suis pas émotionnel, pas du tout. Ça signifie que Dieu a fait l'homme et la femme totalement différents pour des fonctions totalement différentes. Ça n'a rien à voir avec l'égalité des sexes. Le mouvement féministe a pris de l'ampleur dans les nations parce que les hommes ne sont plus des hommes et des omelettes. Je ne fais aucun rapport, aucun procès avec les homosexualités. Non, je parle seulement du caractère de l'homme. L'homme doit être un homme. Gloire à Dieu, rien à voir avec les muscles. Tu peux avoir un gars bâti dans une armoire à glace et c'est une mauviette dans son cœur. Tu peux avoir un gars baraqué, immense, mais qui frappe une femme. Si tu mesures 1m80 qui pèse 100 kg, frappe un gars 1m80 qui pèse 100 kg aussi. Là, on verra la différence. Sois un homme. Soit un père, soit un homme qui a du cran, du courage, de la volonté, qui ne baisse pas les bras pour rien. Ce qui manque en France, c'est des hommes qui disent « Je vais le faire parce que Dieu me le demande. Je suis prêt à le faire, je ne suis pas une mauviette. » Amen. Parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'avoir des pères. Alors je vais dire rapidement trois clés. Trois clés importantes que Dieu a données aux hommes pour devenir des pères. Et quand les mamans et les épouses et les enfants vont entendre ces trois clés-là, je pense que tous, vous allez vous dire « Oh là là, j'ai besoin de prier pour mon papa. » Ou « J'ai besoin de prier pour mon mari. » Pas pour le juger, pour dire « Seigneur, aide-le. » Parce que quand j'étudie ce passage, je dis, Seigneur, mais tu sais, Seigneur, tu nous demandes beaucoup, nous, aux hommes. Dieu n'a pas dit aux femmes, femme, prends soin de ton mari comme un sexe plus faible. Il a dit, mari, homme, prends soin de ta femme comme étant un sexe plus faible. Pas dans le, pas inférieur, plus faible, plus fragile. Il n'a pas dit, femme, dirige tout, commande tout, décide tout, c'est toi qui es responsable. Si ça rate, c'est toi que je vais voir. Il a dit ça à la femme, il n'a pas dit ça à la femme. Les femmes, parfois, sont folles. Parce qu'elles veulent la place du gars. Mais si tu prends la place du gars, tu auras aussi la responsabilité du gars et tu auras aussi la récompense ou le jugement du gars. Faut être folle. Reste à ta place. Marie, prends ta place. Sois l'homme que Dieu veut que tu sois. Dieu a dit, car l'époux est le chef de la femme, le leader, le responsable. Si la femme, je parle bien sûr des mariages qui sont aujourd'hui ancrés en Christ, vous avez divorcé, par la grâce de Dieu, vous pouvez refaire votre vie, ne soyez pas dur envers vous, mais aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision de changer de façon de penser. Si vous n'êtes pas encore marié, les jeunes, là, Jérémy, Bruno, Rivière, dit le Surge, et tous les autres gars, je vous encourage, ça c'est entre nous, Alex, présent. Tu dois être un homme dès maintenant et pas attendre d'être marié pour être un homme. Trois clés, tout le monde dit trois clés. Trois clés que Dieu donne aux hommes pour devenir des pères. La première clé, c'est que l'homme doit apprendre à gérer son influence. Le père, dès l'instant où il devient père, il obtient de l'influence. Que tu le veuilles ou non aujourd'hui, quand tu es un père, tu as l'influence sur tes enfants dès l'instant où l'enfant pousse son premier cri. Matthieu 5, 16 nous dit, Matthieu 5, 16, et c'est Jésus-Christ qui parle et il dit, « Que votre lumière luise ou brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Mes enfants doivent quotidiennement voir la lumière que je dégage par les bonnes œuvres que je fais, afin qu'elles commencent à glorifier Dieu le Père. Mais si chaque jour que Dieu fait, je ne marche pas dans la lumière et je ne manifeste pas les bonnes œuvres, en passant, manifester les bonnes œuvres n'arrive pas par accident, c'est intentionnel. Et quand je manifeste les bonnes œuvres, mes enfants sont quotidiennement exposés à la lumière de Dieu en moi, quotidiennement exposés à ce que Dieu veut faire dans ma vie, à mon sens de justice, à mon sens d'équité, à mon désir de me battre, à mon désir de réussir, à mon désir d'aller plus loin, mon désir de faire les bonnes œuvres pour Dieu. Mes enfants commencent à discerner qui est Dieu. Et si moi, le papa, je baisse les bras, alors s'il vous plaît, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, moi non plus, eh bien gloire à Dieu, allons tendre vers cela. Et maman et épouse et enfants, allons aider les papas à tendre vers cela. Écoutez bien ça, si tu traites les gens tels qu'ils sont, ils vont aller en s'empirant. Mais si tu traites les gens tels qu'ils devraient être, ils vont aller en s'améliorant. Je répète ça. Si tu traites les gens qui t'entourent tels qu'ils sont, ils vont aller en s'empirant. Mais si tu traites les gens qui t'entourent comme ils devraient être, alors ils vont aller en s'améliorant. Je crois en toi, chérie. Je suis avec toi, mon amoureux. Je veux que tu aies un bon papa. Je crois en toi. Tu peux le faire. Ça, voilà un livre, deux livres, trois livres. Va étudier. Je t'aime, chérie. Ce matin, à 6h du matin, dans mon lit, Elodie amène mon café et mes deux petites filles ont couru sur le lit avec des dessins. Et Anna qui commence à chanter une chanson pour moi. Et elle fait « chère maman, papa a dit ». Je fais « Anna, c'est l'inverse ». ».« Non, c'est comme ça !»« chère maman ». J'ai dit « ok, c'est pas grave, hein, je prends quand même hein. ». Elles viennent heureux et elles m'ont dit « papa, tu es un papa extraordinaire ». Et ça me touche, ça me rend responsable. Je me dis « j'ai pas intérêt à les décevoir ». J'ai pas intérêt à montrer ma chair, j'ai intérêt à leur montrer le Dieu de Dieu, le Père que je sers. J'ai intérêt à montrer l'image de Dieu toute leur vie. Et je me rends compte, ma mère me disait, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Anna parle déjà de mariage, je suis inquiet. J'ai une immense responsabilité, celle de l'influencer. Je dois, écoutez bien ça, je dois savoir gérer mon influence. Regarde ton mari et dis, si tu es marié, si tu es à côté de toi, chérie, gère ton influence. Gère ton influence. Papa, tu as de l'influence. Grand-père, tu as de l'influence. Alain, Christian, je vous encourage, je vous exhorte, je vous en conjure. Gérez votre influence. Sur mes deux petites filles. Parce que vous avez une immense influence. Elles vous regardent attentivement. Elles voient comment vous réagissez quotidiennement. Elles voient comment vous marchez, courez, courez pas ou mangez. Ça, elles voient. Quand je lis la lettre aux Galates, laissez-moi vous donner un peu rapidement le contexte. Paul rejoint Pierre en Galatie. Il arrive parce qu'il se rend compte que Pierre a un problème. Pierre est un leader d'une grande influence. Il est appelé pour prêcher l'évangile aux Juifs. Paul est un leader d'une grande influence. Il a été appelé pour prêcher l'évangile aux païens. Et Paul entend que Pierre, en fait, est sous pression à cause des Juifs. Et Pierre se retrouve à un repas de copains. Et pendant le repas, Pierre était sous pression et commence à délaisser les païens pour aller se joindre aux Juifs, de peur de blesser les Juifs, et il est pris au piège par l'hypocrisie. Et Paul arrive, et dans Galates 2, verset 11, on voit le caractère d'un homme qui influence. On voit le caractère d'un père qui comprend que s'il n'agit pas, l'influence de Pierre va affecter, voire infecter les autres. Oublie pas ça, un papa gère son influence. Et Paul dit ici, mais lorsque Pierre, Céphas, vint à Antioche, je lui résistais en face. Imagine Pierre et Paul en plein baston. Parce qu'il était répréhensible, il avait tort. Pourquoi ? En effet, avant l'arrivée de quelques personnes, envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des juifs. Le gars ne s'est pas rendu compte que ses actions résonner autour de lui. Il ne s'est pas rendu compte qu'en tant que père du peuple juif, il avait une immense responsabilité de gérer son influence. Il a commencé à dire, choisis les juifs. Et le malheur des pères, c'est d'oublier qu'on est là pour influencer. Et quand on agit ou quand on n'agit pas, on influence. Le manque d'action, c'est de l'influence. Le manque d'action, c'est de l'influence à la passivité. Et le papa doit réagir. Et Paul, en papa, est venu en disant, attends, t'as un problème? La verset suivant dit, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Même Barnabas, le fils de l'encouragement, le pasteur de la miséricorde, celui qui avait ramené Paul après avoir été brisé par l'église, il a ramené Paul au ministère, même lui était influencé par Pierre. Que me dit ce verset aujourd'hui ? Il est facile pour nous les papas d'être influencés par tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que mon influence va infecter mes enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux décider. Non, tu dois décider d'être un papa différent. Ça va te prendre 2, 3, 4, 5 ans peut-être. Mais avec l'aide de ton épouse, l'aide de ta famille, tu peux y arriver. Je vais y arriver aussi par la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas continuer à laisser les papas chrétiens ne pas prendre leur position et leur place d'homme dans la maison. Pas d'abus, pas de manipulation, pas de magie blanche. Un homme qui gère son influence et qui se dit, comment vais-je influencer mes enfants et ma femme aujourd'hui par mes actions? La deuxième clé est la suivante. Extrêmement importante. Gérer l'autorité. La première clé, c'est gérer l'influence. Tout le monde dit gère l'influence. La deuxième clé, c'est gère l'autorité. Tout le monde dit gère l'autorité. Comment gérer son autorité? En tant que papa, tu as de l'autorité. Pourquoi? Parce que tu as la responsabilité. Lorsque tu es responsable, tu deviens automatiquement celui qui peut exercer l'autorité. Est-ce que vous croyez que Laurent, ici présent au piano, a de l'autorité sur mes propres enfants? Laurent. Est-ce que vous croyez que Laurent a l'autorité sur mes enfants? Pourquoi? parce qu'il n'est pas responsable. Mais si Laurent était responsable de mes enfants pendant un week-end, il aurait une mesure d'autorité à exercer pour s'assurer que mes enfants sont en sécurité et pas en danger. Oui ou non? Une maîtresse d'école a de l'autorité sur mes enfants parce qu'elle est tant censée garder, préserver mon enfant du danger et mon enfant de tous les problèmes. Elle a donc une autorité en disant « Ne sors pas de la cour, ne va pas, fais pas ceci, ne fais pas cela. » Elle a l'autorité, une mesure d'autorité, parce qu'elle a le devoir de protéger mon enfant durant les heures de cours. Oui ou non ? Je délègue cette autorité. Je suis donc responsable quand Dieu fait de toi un père, que ce soit voulu ou pas voulu de ta part. Sème une graine, hop, ça pousse. Ça marche comme ça. Et que tu deviennes un père, mon cher ami, tu te dois de te battre, de t'accrocher et de gérer ton autorité avec sérieux. 1 Corinthiens 13, verset 10. Pardon, 2, je crois. 2 Corinthiens 13, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 10, nous dit, tout le monde va bien? Il faut que je vous dise ça, c'est extrêmement sur mon cœur, c'est important qu'on entende ça ce matin. 2 Corinthiens 13, verset 10, dans la parole de Dieu, tout le monde prie pour Ivan parce qu'il prend 2 heures. Amen, Ivan, alléluia, merci mon ami. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. La véritable autorité construit. Papa, père, la véritable autorité construit. Elle ne détruit pas. Quand Dieu te donne l'autorité, il te dit construis ta famille. Exerce l'autorité pour construire. En parlant, une jeune femme de la maman m'écrivait en me disant, pasteur Bruno, je suis amoureuse d'un gars, mais je sais que c'est pas le bon gars pour moi. J'ai pas la paix avec lui. Mais je suis amoureuse. Est-ce que tu penses que c'est le bon choix? J'ai quand même répondu. J'ai dit, écoute, c'est très simple. Un des paramètres pour les jeunes femmes, Sarah, Picard, Léna, Marie-Joseph, Anastasie, Suzy, Grâce de Monaco. Sarah, ma chérie, pour que tu choisisses un mari, s'il y a une chose que tu dois être sûre, c'est que cet homme-là doit comprendre son rôle d'autorité. Et si cet homme-là n'est pas conscient de la responsabilité que Dieu lui a donnée, de prendre soin de toi et de te construire, alors ce n'est pas un gars pour toi. Ou si c'est un gars pour toi et il n'est pas prêt, c'est encore un petit bébé cadom qui se son pouce. Et laisse-le prendre son biberon pendant des années s'il le faut. Mon conseil est le suivant, ne te marie pas trop tôt. Marie-toi dès l'instant où l'homme que tu vas épouser est prêt. Si tu es une femme d'un âge un peu plus avancé, dans ce sens, je ne sais pas moi, 35, 40, 45, tu commences à flipper en disant, mince, je suis toute seule, il me faut un gars. Je veux un gars. Ça arrive malheureusement, il y a des femmes qui veulent des gars. Teste le gars, teste le mec. Moi, t'as pas, j'aurais fait bonjour. C'est quoi pour toi, c'est quoi l'autorité? Réponds avant demain, au revoir. Ah oui, fais-lui faire une dissertation. Dis-lui, je veux savoir quelle est ta position sur l'autorité. Je veux savoir quelle est ta mission pour ta vie. Tu veux me draguer là? Tu lui dis ça, je dis j'apprécie, je suis contente, merci pour la bague, pour le collier, la voiture, la Porsche, la maison, merci pour tout ça, mais avant que je dise oui, je veux savoir, toi, si tu es vraiment amoureux de moi, je veux savoir quelle est ta vision pour ta vie. Ah ben, vous connaissez, moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que, sous l'aigle, moi, ben, ensemble, nous découvrirons. Et là, tu fais, ciao. On se revoit quand tu seras mature, bye. Ah mais je veux pas le blesser. Qu'est-ce que je veux pas le blesser? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a d'abord commencé par Adam. Quand Dieu a donné une mission à Adam, Ève n'était même pas encore créée. Il a dit, Adam, je veux que tu exerces mon autorité sur la terre. Mais il n'est pas bon que tu sois seul. Tu ne pourras pas le faire tout seul. Donc je te ferai une aide. Pas un tapis de sol, une aide semblable à toi. Pour t'aider dans ta mission. Mais la plupart des jeunes filles veulent se marier alors que le gars lui-même ne sait pas où il va. C'est autant prendre un taxi et dire on va. On va où? On va. L'aventure. Eh bien, mon ami, tu vas brouter le gazon. Je vais dire à mes filles, dès qu'elles auront l'âge, là, l'âge de mariage, à 40-50 ans, quand elles seront prêtes à se marier. De toute façon, avant que le gars touche ma fille, il va faire 27 ans et demi d'école biblique. Il va faire 6 fois l'année numéro 1, 6 fois l'année numéro 2, c'est, je te dis, moi. Il va écrire 3 bouquins sur l'autorité, 4 bouquins sur l'influence, 5 bouquins sur l'éducation, et après, on verra s'il est prêt. Bon, très plaisanterie, l'idée est importante. Si l'homme ne sait pas qu'il est responsable d'un foyer et que son autorité est donnée pour accomplir une mission, inculquer la loi de Dieu aux enfants, savoir où il va, si la femme se rend compte ou si tu te rends compte que ton mari ne sait pas où il va, tu dois dès maintenant tomber sur tes deux genoux, prier Dieu, lui parler et ensemble découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Sinon, vous irez nulle part. Et si vous ne savez pas où aller, n'importe quel chemin vous amènera. Sarah, ton futur mari, il passera par papa sûrement, par moi, Jérémy et Benjamin. Faut des bouglades, t'es de bouger. Aucune pression si tu es dans la salle aujourd'hui, si tu existes déjà. En tout cas, Sarah, ton futur mari est déjà né. L'autorité est pour construire. Tout le monde dit construire. Et quand Dieu voit que je construis les autres, il augmente l'autorité. Quand Dieu voit que je construis les autres, il augmente l'autorité. Quand Dieu voit que j'influence les bonnes personnes, j'influence bien des gens, il augmente l'influence. Par exemple, cette semaine, j'ai été extrêmement béni, touché par un message d'une jeune femme qui m'a écrit en me disant, voilà, mon copain, un ami que j'ai, aime le sport. Et il n'est pas chrétien, mais il aime le sport, il aime le trail. Et comme on sait que tu fais du trail, est-ce que tu pourrais, toi, l'inviter un jour à venir courir avec toi? J'étais très touché parce que je me suis dit, waouh! Ça se trouve, le gars, c'est qu'il y a une journée, mais c'est pas grave. C'est qu'il est déjà pro, mais c'est pas grave. C'est super. S'il est fort, tant mieux. On peut aller avec lui, on peut courir ensemble. Mais mon cœur est touché parce que Dieu avait augmenté l'influence que j'avais. J'ai commencé par un ou deux gars. J'essaie de les influencer. Le Surge, par exemple. Le Surge, c'est Bruno Rivière. Ici présent, Bruno. Lève-toi. Regarde tout le monde. Dis bonjour à tous. Tourne-toi. Là, fais une pirouette. Voilà. Bah, il est déjà pris, mais par exemple, j'essaie d'influencer Bruno dans sa vie. Et quand Dieu voit que tu veux vraiment le faire d'un cœur pur, il augmente ton influence. Et tout d'un coup, de nulle part, même un non-chrétien vient pour se connecter à toi, simplement. Dire, tu vois, je te connais pas, mais j'aimerais bien te connaître. Dieu augmente l'influence. Parce que ton influence est réelle. Il augmente ton autorité. Lorsque ton autorité est réelle. Et le troisième point que j'ai mis... Ah oui, j'ai mis une phrase qui est pour moi importante ici. Écoutez bien ça. L'autorité, c'est l'outil du serviteur. Mais non pas l'arme d'un leader. L'autorité, c'est l'outil du serviteur. Il est là pour servir, pour construire. Mais pas l'arme d'un leader. Si un père, un pasteur, un gourou, un kangourou, un président, un pape... exerce l'autorité de façon abusive en disant « C'est moi l'autorité, tu dois m'écouter !» C'est que déjà le gars n'est pas en autorité. Parce que l'autorité, ça se mérite. L'autorité, ça grandit dans ta vie par la grâce de Dieu parce que tu fais des choses bonnes et continuellement bonnes. L'autorité est donnée au serviteur et non pas au chef absolu. Tu veux être un bon papa? Sers. Il y a une chose qu'elle dit ici dans ma vie, c'est que je ne suis pas talentueux pour percer des trous. C'est pas mon talent. Mais je refuse de laisser cette phrase devenir un dicton dans ma vie. Donc je me suis mis dernièrement à percer des trous. Et pour une barre de rideau, j'en perce 12 de trous. Parce qu'il faut que je rebouge un peu. Enfin, c'est un peu exagéré, mais c'est quasiment ça. Mince, c'est pas droit. Je mets le truc là, le passé, c'est quoi là? La cheville, c'est une cheville, c'est pas ça, c'est un nom ça? Bam, je mets la cheville. Du coup, je peux plus mettre la vis dedans parce que j'ai éclaté la cheville dans le trou, quoi. Je suis cuit à tout refaire, enlever, ça m'énerve le truc. Mais si vous me filmiez, c'était un... Et le diable a pris des photos. Finalement, elle me dit, chérie, j'ai acheté un truc, des petites lettres à mettre sur un mur. Quand elle me dit, chérie, je vais à Cagliari, je vais chez Weldom ou chez Monsieur Piccola, je m'affole. Je dis, Seigneur Jésus. Fait qu'elle ramène une chaise, un truc de ce style-là, pas un truc à percer, monter, parce que franchement, je suis comme Gad Elmaleh, à la fin du montage, il reste 14 vis. Je me dis, bon, elle arrive, il y a des petites lettres. Je dis, chérie, voilà, c'est pour fixer. Mon premier réflexe, c'est, je regarde, je retourne la lettre, il y a 2 trous par lettre. Tonnerre, il y a 4 lettres, ça fait 8 trous à percer. Je dis, je suis mort, 8 trous, il me fera la semaine. Tout d'un coup, me vient une idée. Je dis, je vais quand même voir ce qui se fait sur le marché. Je suis allé à Weldom, au bricolage. J'ai dit, avez-vous un truc là pour plaquer les lettres au mur sans percer les trous? Il m'a dit, oui, j'ai ni colle ni vis. Non, ni trou, ni quoi? Ni clou ni vis. Ni clou ni vis, c'est une colle qui colle tout. J'ai fait, ouais, je veux acheter un conteneur, c'est trop cher. J'ai pris une bonbonne. Tu mets une ligne, 2 lignes sur la lettre, tu plaques la lettre. 10 secondes, c'est écrit dessus, j'ai compté. 2, 3, 4, 5, 10, j'arrête, ça tient. Tu dis ouais, voilà, j'aime quand c'est comme ça, tu vois. Mais le point est le suivant. J'ai appris que Dieu a donné à l'homme une 3e clé. Ça, c'est la plus dure à encaisser. Gérer l'influence, gérer l'autorité, d'accord? La troisième. Clé pour un homme, c'est que l'homme, le papa, le père, est appelé à gérer les problèmes. C'est une caractéristique première d'un père dans une maison. Un père n'est pas là pour créer des problèmes, mais pour gérer des problèmes. Marc 2, verset 17 nous dit... Alors quand elle le dit, maintenant m'emmène des trucs à percer, je vois ça comme un problème à résoudre. Je me dis, bon, je vais le faire. Et le soir, j'étais tellement motivé, j'ai fait un meuble, une traîne de rideau, et j'ai même monté la trottinette de ma fille en moins de 2 heures. Parce que le dessin n'est pas logique, hein. Un problème. Marc 2, 17 nous dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit... Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs. Et Jésus, c'est l'exemple ultime du papa parce qu'il reflète le père. Jésus a dit à Philippe, Philippe, ça fait 3 ans que tu es avec moi. Si tu m'as vu, tu as vu le père. Donc quand Jésus dit, si tu veux être comme un vrai père, tu dois être celui qui apporte des solutions. Tu ne dois pas fuir les problèmes, tu dois faire face aux problèmes. Un vrai papa fait face aux problèmes. Un vrai papa prend le problème, analyse le problème, retourne le problème, va pleurer dans les toilettes s'il le faut tout seul, ressort en disant « c'est bon, j'ai la solution ». Mais un vrai papa ne dit pas « je ne peux rien faire ». Ne peut rien faire n'appartient pas au langage d'un papa. Parce que tes enfants te regardent, ils attendent et te regardent, ils disent, c'est bon, tu peux le faire? T'inquiète pas, on va le faire, c'est bon, on va le faire. Il reste 14 vis, mais on va le faire. Un père a de l'influence, un père a de l'autorité, un père doit gérer les problèmes. Tout le monde dit gérer les problèmes. Est-ce que vous êtes rendu compte? Je suis sûr que non. Mais êtes-vous rendu compte qu'il y a des problèmes partout autour de vous? C'est dur à voir, je sais. Problème dans les couples, problème dans les mariages, problème dans les familles, problème à l'école, dans la société, le gouvernement, problème partout, t'as des problèmes. Tu commences à l'école avec des problèmes de maths. Il y a des problèmes partout. Et chaque jour, Dieu cherche des pères. Ils disent, je suis là mon enfant, je suis là. Le Père Céleste est celui qui a résolu tous les problèmes. Il a envoyé son fils unique sur la croix. Et le Père naturel que nous sommes, nous devons imiter le Père céleste, oui ou non? Quand j'étais plus jeune, mon Père m'a donné, m'a inculqué. Je crois que si, comme tout le monde a des défauts et des qualités, mon père a beaucoup de qualités, mais une des qualités qui est pour moi la plus puissante dans ma vie par rapport à mon père, c'est que mon père avait une phrase, là toujours d'ailleurs, mais une phrase qu'il a toujours dite, toujours, depuis que je suis tout petit, depuis que j'étais un tétard, il a dit, j'ai déjà ça. C'est la phrase, t'inquiète pas, y a pas de problème, on trouvera une solution. Papa, je vous me défie, si vous le connaissez, il vous dira toujours, on trouvera une solution, t'inquiète pas, et on peut toujours s'arranger. Un jour, j'étais en train de faire du foot. On était une vingtaine de jeunes marmailles à Saint-Paul. Je sais pas si lui a oublié ça, mais moi j'ai pas oublié ça. Et une maman devait faire à manger pour tout le petit marmaille. Et à 11h après le 4e, 5e match, le petit garçon, notre petit copain, nous dit, au fait les gars, j'ai oublié, maman elle est malade, n'a pas mangé aujourd'hui pour nous. Il n'a pas mangé aujourd'hui pour nous, mais je dis fou quoi. Il est 11h30, les gars commencent à avoir faim, on n'a pas d'argent, on est quoi, on a 14 ans, on joue sur un terrain de foot compétition. Et là, mon premier réflexe, c'est de dire à mon coach, est-ce que je peux appeler mon père, il aura la solution. Et le coach m'a dit, quoi, ton père en a mangé pour tout le monde? Je dis, je suis sûr. J'appelle mon père, 12h40, il débarque. Sandwich au rôti de porc avec pommes de terre dedans. C'était le bon vieux temps, ça. C'était bon. Ça, avec coca, jus de fruits, il y avait des desserts, il y avait je sais pas quoi, il y avait des gâteaux, il y avait des... Je sais plus ce qu'il y avait. Les gars emmenaient deux, trois grosses boîtes. Comment on l'a fait? Je sais pas. Je sais plus comment on l'a fait à l'époque. À l'époque, il y avait accès illimité au stock de Super U. Je sais pas comment on l'a fait, mais en tout cas, les gars étaient choqués. À un autre moment, il y avait Luc Dumont qui prêchait dans une tente sur le terrain Hosanna. Et tout d'un coup, coupure de courant. Papa, tout de suite, organise en moins de quelques secondes un groupe électrogène, les lumières des voitures, et Luc a pu continuer à prêcher avec. À prêcher son message, alors qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de courant. Luc a été choqué parce que, en revenant, il a dit à l'église, le gars a trouvé une solution, il n'a pas dit, ben on annule la réunion, il n'y a plus de courant. Oh, faisons pitié. Non, il a dit, on trouvera une solution. Un jour, on devait organiser une sortie. Je sais plus c'était où, je suis plus très sûr, mais quelque part dans la nature. Et la maîtresse, le maître, était content. On disait, ben voilà, dans une semaine, on va faire telle chose, blablabla, on y va, il y avait un bus et tout. Et puis, une semaine, quelques jours avant, le maître vient nous voir en disant, écoutez, mes enfants, désolé, on va devoir annuler la sortie. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi? Arrête à goudon, monsieur. Et il dit, parce que la mairie ne peut plus nous prêter de bus. J'ai dit, attendez, pas de problème, je vais mon père, il y a une solution. Et il a eu le bus, il a eu un bus entier pour le staff technique, c'est-à-dire le prof, ses copains, l'école, nous-mêmes, tous étaient ensemble et tout le monde le dit, ouais. Parce que le gars s'est dit, on a toujours une solution. Le nombre de fois où mon père a dû se dire, est-ce que ma famille est composée de 4 marmailles ou de 12? Le nombre de fois où j'arrivais le midi ou le soir avec pas un copain, pas deux copains, mais mes trois cousins et leurs copains. Et le nombre de fois où mon père a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'arrive, je viens pas au fait, est-ce que, je demande devant eux, hein, est-ce que mes copains peuvent manger à la maison? Bah ouais, vu qu'ils sont là. Et il fait les omelettes feuillantes, ça c'est bon ça, Seigneur Jésus, amen. Et on faisait l'omelette ou réchauffée ou cricorzonnée, mine. Bref, c'était un truc rapide. Mais gars, restez là, allez-y. Puis il envoyait un copain acheter des coca et tout ça. Il n'y avait jamais eu un truc qui disait c'est pas possible. Mais moi, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui. Et cette faculté qu'avait mon père de dire il n'y a pas de problème a été puissamment intégrée dans mon caractère et personnalité. En tant que leader aujourd'hui, ça me sert tous les jours. Je n'aime pas dire à l'église, à mes enfants, à ma femme, c'est un problème insurmontable. Je ne dis jamais ça. Je dis, on trouvera une solution. Je vais devoir travailler plus dur s'il le faut. Je trouverai une solution. Un truc que j'ai dit ce matin, qui est important pour mon père et pour tout le monde. Il y a environ 30 ans de cela, mon père a tout perdu. Tout. Tout perdu. Passé de stade de millionnaire à stade de je dois un paquet de millions. Et depuis des années, c'était dur pour mon père, dur pour ma mère. Mais un truc que j'ai vu chez mon père, il n'a jamais abandonné Dieu, jamais baissé les bras, il a toujours dit, Dieu trouvera une solution. Même quand moi, je me dis, mais le gars, il a un problème, il n'y a pas de solution là. Et plusieurs fois, ça énerve ma mère. Beaucoup d'amour. Maman a beaucoup de qualités, mais est-ce qu'elle, si elle sait, c'est que papa, lui, le truc que c'est impossible, c'est pas dans sa bouche. T'inquiète pas, chérie, on trouvera une solution. T'inquiète pas, chérie, on trouvera une solution. Quel est mon point ce matin? Un papa trouve des solutions. Il inculque à ses enfants cette mentalité de dire « Hey, il y a toujours une solution. » Et vous lirez chez vous, quand Paul parle à Timothée dans 1 Timothée 4:12, il dit que personne ne méprise sa jeunesse. En même temps, il dit « Attends, tu sais quoi? En toi, il y a de la puissance. T'arrête pas au problème. Ne t'arrête pas à ta jeunesse. Ne t'arrête pas à tes soucis d'aujourd'hui. Tu peux devenir le pasteur de la plus grande église du monde, Timothée. D'ailleurs, tu es le pasteur d'une église de 100 000 membres. Ne t'arrête pas. Il y a toujours une solution. » Un papa dit toujours ça à ses enfants. Un papa dit ça à sa famille. Un papa dit ça à sa nation. Il y a toujours une solution. Un papa discerne les problèmes. Il gère l'influence. Il gère l'autorité. Et il gère les problèmes. Et quand tu commences à avoir ça, alors frères et sœurs, je vous promets que la vie change. C'est pour cela que je dis à ma grande sœur Sandrine, qui est une perle, qui mérite un homme de Dieu, que lui aussi, ma sœur chérie, il passera par le feu, le test, et le refeu, et le retest, et le refeu, et le retest, et le refeu pendant moins 40 ans. Alors tu marieras. Non, on ira plus vite. Regarde ton voisin et dis... Voilà. Je finirai avec ça ce matin. Écoutez bien cela. Et j'espère, en lisant cela, vous donner envie, chère épouse, à ne plus jamais critiquer votre mari devant vos enfants, ni même le juger. Tu n'es pas le mari, tu n'es pas le papa. C'est dur d'être un papa. Je le sais, j'en suis un. Quand je rentre à la maison, souvent mes filles me disent « Papa, maman m'a dit de te dire, est-ce qu'on peut faire ça ensemble ? Parce que toi, tu sais comment faire. » Souvent elle le dit dans son rôle de femme parfaite, elle te dit « Va voir papa. » C'est lui qui sait comment on va faire ça. Mais elle a raison, c'est pas son rôle de décider tout le temps de gérer les problèmes, c'est mon rôle. Dans le rôle, dans les familles monoparentales, la question ne se pose plus. Le papa n'est plus là, par exemple. Malheureusement, c'est dur. Dieu donne une mesure de grâce. Mais dans les couples ce matin mariés qui ont des enfants, je vous en conjure, papa, prenez votre place de papa. Écoutez bien cela. Ce qui suit, vous devriez prendre des notes. Ce sera en ligne, de toute façon sur Internet, pour si vous le souhaitez. Mais écoutez bien ça. Un homme a visité un commissariat de police. Et dans ce commissariat, derrière le bureau du policier, il y avait un texte qui disait il y a un écriteau qui disait « Je sais, madame, ce n'est pas la faute de votre fils, c'est celle de ses copains. » Ça commence bien. Parce que la plupart des parents qui viennent en gendarmerie, ils se plaignent des copains de leurs enfants qui ont fait des bêtises. Mais bon, je peux comprendre. Après, sur le mur, il y avait, écoutez bien ça, un texte établi par les services de police. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce sont 12 règles. Tout le monde dit 12. 12 règles à observer. Tout le monde dit observer. Pour avoir des enfants délinquants. Si vous observez ces règles, vous aurez des enfants délinquants. Écoutez bien cela. On est prêt? C'est bon? Dès son plus jeune âge, accordez à votre enfant tout ce qu'il désire. En grandissant, il s'imaginera que c'est à la société de le nourrir. Mais il veut le RSA, le RSB, le RSC, le RSZ, il veut tout le pays de RSA. Je comprends que c'est dur parfois, mais hey, les gars, oh, hey, il y a beaucoup plus en toi que d'attendre que la société te nourrisse. Tu peux créer une société, tu peux créer une idée, tu peux travailler plus dur, tu peux faire des choses avec tes mains, ta tête, ton corps, ta vie. Tu peux devenir ce que tu veux que tu deviennes. N'attends pas que la France te donne de l'argent. C'est bien pour une saison, pas pour le temps de ta vie. Oui ou non? Premier principe, dès son plus jeune âge, accorde tout à ton enfant, tout ce qu'il désire. En grandissant, il s'imaginera que c'est à la société de le nourrir. Deuxième principe, pour que ton enfant devienne un délinquant, quand il use des propos vulgaires, ris avec lui, il se croira très malin et cela l'encouragera à enrichir son vocabulaire de grossièreté, toujours plus choquante, qui par la suite vous feront dresser les cheveux sur votre tête. Il y a des parents parfois qui me cassent, l'enfant fait un juron, il fait « Oh, il a dit un juron !» Waouh, très marrant. Troisième point, ne lui donnez aucune éducation biblique ou religieuse, attendez qu'il soit majeur, alors il sera en mesure de décider pour lui-même. Si tu fais ça, tu auras de gros problèmes. Évitez, s'il vous plaît, si vous voulez des enfants délinquants, évitez d'utiliser le mot « mal » ou « faux » dont l'emploi favoriserait éventuellement chez l'enfant un complexe de culpabilité et tourmenterait plus tard sa conscience lorsqu'il sera arrêté pour vol de voiture. Ramassez tout ce qu'il laisse traîner, livres, chaussettes, chaussures, vêtements, faites tout à sa place pour qu'il s'habitue à ne compter que sur les autres. Ne l'empêchez pas de lire ou de regarder tout ce qui lui tombe sous la main. Veillez plutôt à votre argenterie, soyez sûr que vos verres sont nettoyés, mais laissez l'esprit de votre enfant se nourrir d'obscénité. Il y a des gens qui passent plus de temps à astiquer le sol de la salle qu'à astiquer le cœur de leur enfant. Disputez-vous fréquemment en présence de vos enfants, ainsi ils ne recevront pas un trop grand choc plus tard quand le foyer sera détruit. L'attitude du père ou de la mère envers l'un envers l'autre doit être gouvernée par un principe fondamental, l'obéissance à Dieu. Peut-on espérer que des enfants se conduisent bien quand le foyer auquel il appartient est prêt de se briser ? Le développement satisfaisant des enfants n'est pas un processus indépendant du milieu dans lequel ils vivent. L'enfant grandit dans un organisme vivant et moral. L'enfant grandit dans une famille. La famille dans laquelle se trouve impacte, influence, forme, transforme ce qu'il est. Donnez tout l'argent de poche qu'il demande. Ne lui permettez jamais de travailler pour l'obtenir. Pourquoi aurait-il la vie aussi difficile que vous l'avez eue ? Je veux pas qu'il souffre comme moi. Prends tout. Je disais à un couple cette semaine, où le gars me demandait, « Pasteur, comment faire quand là j'ai un enfant, mais tu sais, c'est pas toujours facile parce que ma femme, elle passe beaucoup de temps avec l'enfant, l'enfant décide de tout dans la maison. » Et je dis, « C'est ça, c'est le grand problème. L'enfant n'est pas le centre du foyer, c'est le mariage, le centre du foyer basé sur Dieu. Vous faites des enfants pour qu'ils partent. » Oula. Pour refaire celle-là. « Vous faites des enfants pour qu'ils partent, pas pour qu'ils restent. » Mes filles auront plus de grâce et resteront longtemps. Ça vient du cœur. Mes fils que je n'ai pas encore, hein, les 12 qui vont suivre, eux, dès que je peux, c'est bam, va travailler. Fais-toi un nom, une réputation, une vie, bosse. Ça n'est pas passé trop cool avec les jeunes, hein? Non? Si ? Non, pas grave, c'est pareil. Je ne change rien pour vous. Accordez-lui tout ce dont il a envie. Écoutez bien ça. Tant dans le domaine de la nourriture que celui de la boisson. Procurez-lui tout le confort qu'il réclame. Assurez-vous que tous ses désirs sensuels sont satisfaits. Un refus, tu sais, pourrait susciter en lui un sentiment regrettable de frustration. Fais pitié. Et molle plus. Je suis frustrée, tu ne me comprends pas. J'ai 5 ans, je veux tout. Dans la salle de bain, va prendre la cuillère. Hein? Donnez-lui raison contre les voisins, les professeurs, la police, parce que tous lui sont hostiles. Faites-lui comprendre que tous ceux qui l'entourent ont tort. C'est comme les gars là. Moi, je suis motard. Enfin, j'étais parce que j'ai plus de moto, mais bon. Quand j'ai écouté les motards en colère hier, j'ai eu envie de rire quand même. Parce que je comprends qu'ils en ont marre de payer des taxes de primes du radar qui t'allume la tête. Je comprends qu'ils en ont marre que leurs photos soient prises. Je comprends. Mais si tu ne roulais pas à 180, tu n'aurais pas de photos prises. Toi-même. Oui, tu comprends, les gars nous arrêtent, on est à 180, ils sont pas gentils avec nous, les gars ont tort. Mais attends, la loi c'est 110 mec, tu roules à 109,99. 140, 100 ans, tu reviens plus rapidement. Non, tu fais pas ça, ok. Mais l'idée, c'est que on grandit dans une société où on ne trouve pas normal d'avoir des règles. On ne trouve plus normal d'avoir une loi. C'est plus normal d'écouter les parents. Quand un enfant me dit « Pourquoi dois-je écouter maman ?» J'ai envie de lui dire « Mais tu vas te prendre une claque dans ta petite tête, mon ami !» Enfin, c'est pas vrai, mais tu vois, je... L'enfant doit écouter ses parents. Lorsqu'il lui arrive de graves ennuis, tranquillisez votre conscience en vous disant « Je n'ai jamais pu rien faire avec cet enfant. » Non ! Oh ! Éduque ton enfant. Aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Si vous êtes jeune de l'église Hosanna, vous avez le devoir d'être des enfants matures, des enfants qui obéissent, des enfants qui respectent les règles, les gendarmes, la police et tout le reste. Vous devez montrer du respect, sinon vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien, mais plutôt crétin. Et enfin, préparez-vous à vivre une vie de chagrin, vous l'avez bien gagné. Les flics disent, si vous faites ça, vous vous assurez d'avoir des petits délinquants en puissance. Alors ce matin, quel est mon but ? Je dois ramener un peu tout le monde sur ce sujet du papa. C'est extrêmement important. Je dois ramener tout le monde en disant, attends, on va réfléchir à ce que nous faisons. Le succès d'une paternité n'est pas accidentel, elle est intentionnelle. Et le succès d'une famille réussie n'est pas accidentel, ça demande beaucoup de travail. Et si l'un des deux n'est pas encore chrétien, la femme ou le mari se doit de travailler dur sur son cœur pour amener son mari ou sa femme vers la connaissance de Christ, pas de façon religieuse. Ce matin, jeunes, je vous encourage, venez, allez voir vos pères, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils aient fait du bien ou pas, pardonnez-lui. Priez pour lui, ne le jugez plus. Vous n'êtes pas papa, vous êtes fils ou fille ou maman, vous ne pouvez pas comprendre. Au départ, Sarah, je pensais que mon papa, à l'âge de 15 ans, pour moi, papa était vraiment bête. À l'âge de 20 ans, il était un peu moins bête, mais quand même. Aujourd'hui, il est plus bête du tout. C'est le grand fléau des jeunes. Nous pensons toujours comprendre mieux que les autres. Frères et sœurs, ce matin, femmes, je vous en conjure, le message est très simple, mais très important. Nourrissez l'influence de votre mari. Nourrissez l'autorité de votre mari et nourrissez sa capacité à résoudre les problèmes. S'il n'est pas à la hauteur selon vous, priez pour lui. La maîtresse de Lisa, qui est une femme extraordinaire, que j'aime beaucoup, qui fait un bon travail, malheureusement cette semaine s'était absentée une après-midi je crois, et elle fut remplacée par une collègue, qui j'aimerais d'ailleurs avoir son nom, son numéro de téléphone pour l'appeler, mais bon, c'est interdit. Lisa n'a pas réussi à faire un exercice. Et la femme, sans connaître l'histoire de ma fille, qui, je vous le rappelle, a vécu en Afrique du Sud, et a dû rattraper une année, deux ans presque, en une année, elle n'a pas eu de CP en Afrique du Sud, elle n'a pas eu de CE en Afrique du Sud, elle est rentrée directement extra tempora, ce qui signifie en retard, avec plusieurs mois de retard, 4 mois je crois de retard, 3 mois de retard, 3 mois, elle a raté un trimestre entier, elle a dû, Lisa, rattraper tout le CE1 sans avoir fait de CP en France. Et la maîtresse, qui ne connaît rien à rien, lorsque Lisa a fait une erreur, elle dit « Tu as intérêt à mieux travailler à l'école, sinon tu ne réussiras jamais ta vie. » Je dis « Lisa, ma chérie, quand elle te parle comme ça, tu dis « Madame, avant de juger et critiquer, apprenez votre dossier sur les enfants, vous savez qui vous êtes. » Mais elle a dit « Non, pas, je dirai pas ça. » Je dis « Si, dis-lui qu'elle ne comprend rien à la vie. » Mais bon, là, il ne fallait pas dire ça, mais bon. Mais la maîtresse, au lieu de dire « Attends, je vais t'expliquer. On va le refaire. » Elle n'a pas cherché à savoir si oui ou non l'enfant avait des mois de retard à rattraper, qui en plus, elle a bien rattrapé, elle a encore des lacunes, mais c'est normal qu'elle passera au fur et à mesure. Elle juge de suite. Et bien souvent, nous faisons la même chose, nous les épouses, enfin, je ne suis pas une épouse, mais vous comprenez? Et on juge l'homme dans la maison sans jamais comprendre le type de pression qu'il vit. Alors, je vous rassure, femme, vous avez votre moment, 3 semaines. Aujourd'hui, c'est pour nous. Hein? J'appelle ce matin. Ce soir, je vais compléter ce matin et ce soir, on fera une prière commune. Mais ce soir, on va prier pour les mariages et pour les familles. Parce que c'est le dernier message sur le mariage. Et ça va être très, très fort ce soir aussi. Et on va prier pour les mariages qui sont en difficulté. On va prier pour les familles. On va prier pour que les jeunes ce soir viennent. Et on va prier pour chaque famille. On va vous bénir. On va vous oindre d'huile. Si votre mari n'est pas chrétien, votre épouse n'est pas chrétienne, on va prier pour elle. Donc venez ce soir. Mais aujourd'hui, faites des pères, je vous libère maintenant. Faites des pères, allez fêter les pères, les grands-pères. Si votre père n'est plus de ce monde, je sais que c'est, enfin, je suppose, c'est pas facile. Moi, mes parents sont encore là, mais je pense que je vois que la douleur des gens souvent. Allez voir les papas d'autres personnes, votre voisin, un ami. Bénissez les gens autour de vous. Aimez les gens autour de vous. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que le papa, c'est ma conclusion, le papa ne peut pas devenir un meilleur père sans le soutien de son épouse et de ses enfants. Impossible. Mais si l'épouse, si les enfants commencent à l'encourager, pas le flatter, et le dîme ne me flatte jamais. Au contraire. Elle m'encourage. Elle est fière de moi. Du coup, je suis content parce que quand elle me le dit, je sais que c'est sincère. Elle ne sait pas me dire ça pour que voilà, je me sente bien. Non, elle, si elle n'a pas envie de me le dire, elle ne me le dira pas. Mais elle veut m'encourager, pas me flatter, c'est différent. Mais encouragez vos maris. Et Thierry, écoute, je sais que je n'ai pas été peut-être à la hauteur à tes côtés. Peut-être que tu as eu du mal depuis quelques années. On va se prendre les mains. On va prier ensemble. Je vais t'encourager. Tu verras, ça ira de mieux en mieux. Mais soyez positif. Soyez. Demandez à Dieu de vous donner la grâce et sa perspective. Amen. À vous les jeunes, si vous avez blessé votre papa ou manqué de respect, vous n'avez pas compris ce qu'il devait faire. Influencer, c'est dur. Avoir l'autorité, c'est dur. Gérer les problèmes, c'est dur. Aidez-le, encouragez-le, aimez-le. Alors ce matin, j'ai pas envie de faire comme on l'a fait pour la fête des mères, c'était spontané là-bas, c'était différent. Mais j'espère ce soir qu'on aura le gros de l'église qui va venir et qu'on va pouvoir vraiment passer du temps ensemble. Je vais prêcher un court message et on va passer beaucoup de temps à prier pour les familles. Je m'attends vraiment à ce que Dieu restaure les cœurs. Que vraiment cet esprit vienne et ranime la flamme dans le cœur de certains, de beaucoup même. Ce matin, j'aimerais demander au papa de relever le défi. De ne pas baisser les bras. De ne pas vous dire, c'est pas possible. De ne plus jamais parler de façon négative. De vous accrocher à la mission que Dieu vous donne. Cette mission est divine, elle n'est pas humaine. Aucun homme n'a choisi d'être un homme. Aucun homme n'a choisi d'avoir la mission, aucun homme ne peut choisir quel type de mission il peut avoir. Quand un homme devient un père, le père a une mission qui est attachée à son titre. Amen. Donc ce matin, priez pour ça. Mes notes seront sur Internet, sur le site de l'Église, très bientôt, peut-être demain matin ou mardi matin, pour les consulter, relire les passages et lire ces fameux 12 points-là pour avoir des délinquants dans la maison. Mais ça va passer une très très bonne fin de journée. En tout cas, j'espère vous voir ce soir. Qui veut des délinquants à la maison? D'accord. Donc on va les dédélinquanter, d'accord? On va les aider à comprendre les choses. Amen. Je vous aime. Merci à mon papa d'exister. Merci pour cette fameuse qualité qu'il m'a inculquée. Qu'on peut toujours trouver une solution. Merci à Alain, d'être mon beau-père, d'avoir accepté que je prenne la main de sa fille et tout le reste avec. Et passez une très bonne fin de journée. Il y a des petits, quoi? Il y a des voitures à offrir? Des pains au chocolat, d'accord. Il y a des pains au chocolat à offrir à l'extérieur. Et dans chaque pain au chocolat, il y a une clé de Porsche que vous pouvez récupérer pour tous les papas. Attendez, avant de partir, j'aimerais faire un cadeau, comme ça, spontanément, à deux frères que je ne connais pas assez bien. Mais tiens, c'est pour toi. Bonne fête des pères. C'est pour toi. Bonne fête des pères. Voilà, je vous aime très fort. J'aurais voulu acheter pour tous les papas, mais mon compte m'a dit non. Et mon comptable m'a dit non plus. Alors je vais attendre. Mais bientôt, un jour, j'offrirai des cadeaux à tous les papas tous les dimanches matin. T'imagines le truc là? Là, on est riche. Hein. Tous les dimanches matin, pouf, voilà. Là, l'église est pleine. Frères et sœurs, je vous aime. Passez une bonne fin de journée. Que Dieu vous garde. Merci. À ce soir.